Quelle surprise de me voir sur la tribune. C'est pas fréquent, n'est-ce pas, qu'un membre de l'Église soit appelé à apporter la prédication de la parole. Aussi, c'est avec un peu d'hésitation, je le reconnais bien, que notre cher frère Benoît m'a placé sur la liste. Et quand j'ai vu que mon nom y était présent, non pas comme présentateur, comme président, mais bien comme prédicateur, ah, c'est une autre paire de manches. Mais n'empêche que le Seigneur fait bien les choses. Et ce matin, je priais encore dans mon culte personnel, et je demandais au Seigneur, dans un temps de silence, « Seigneur, parle-moi ». Et je n'ai rien entendu de mes oreilles, mais automatiquement, j'ai entendu en moi-même « Va avec la force que tu as, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse ». Je vous assure que ça m'a fait énormément de bien, parce que l'homme étant ce qu'il est, avec ses appréhensions, avec ses peurs, avec ses angoisses, avec ses... on est comme ça, on est humain. Et quand on doit prendre des responsabilités qui sont quand même très importantes, parce que la prédication n'est pas rien, la prédication c'est un message qui doit être inspiré de Dieu. La prédication c'est comme la prophétie. Il y a trois postes, trois cadrans dans la prédication. Il y a l'édification, il y a... Là que j'oublie maintenant. Édifie, console et exhorte. Édifie, console et exhorte. Compte tenu de la situation que nous vivons dans notre Église, avec nos bien-aimés qui... malheureusement, souffre de la disparition d'un être cher. Pensons bien sûr à toutes les personnes de l'Église qui ont perdu un être cher, une épouse, un époux. Le Seigneur m'a conduit à prendre des textes pour vous encourager, pour vous consoler, pour vous démontrer combien Dieu est grand et combien il est bon, combien il a prévu également à notre consolation, mais aussi à notre édification personnelle. Nous avons besoin d'être branchés inaltérablement sur la personne de Jésus-Christ. Jésus est finalement le point central de notre vie. Il est l'essence même de notre foi. Il est celui qui nous donne à satiété tout ce dont nous avons besoin. Nous venons encore de l'entendre par notre frère Mehdi. Il est la source de toute bénédiction, la source même de notre joie, de notre bonheur et de notre paix. C'est de lui et par lui que sont toutes choses. Et c'est ainsi que le Seigneur m'a conduit vers un chapitre qui est bien connu dans la Bible, et je vais vous le lire dans son entier parce qu'il vaut la peine d'être lu. C'est dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 5. J'avais un tas de petites... Voilà, c'est pas tous. Je ne suis pas perdu, j'ai retrouvé mes repères. Nous savons en effet que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous gémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste. Puisqu'après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons que tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin du Seigneur. car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, de bien ou de mal, alors qu'il était dans son corps. Ainsi donc, puisque nous savons ce qu'est la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes quant à Dieu, il nous connaît. Et j'espère que dans votre conscience, vous nous connaissez aussi. Nous n'allons pas de nouveau nous recommander nous-mêmes auprès de vous, mais nous voulons vous donner l'occasion de vous montrer fiers à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui mettent leur fierté dans les apparences et non pas dans ce qui relève du cœur. En effet, si nous avons fait preuve de folie, c'est pour Dieu. Si nous sommes raisonnables, c'est pour vous. C'est que l'amour de Christ nous presse, parce que nous sommes convaincus que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et s'il est mort pour tous, c'était afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, désormais, nous ne percevons plus personne de manière humaine, et si nous avons connu Christ de manière purement humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même. En ne chargeant pas les hommes de leurs fautes, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu de péché, il l'a fait devenir péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Quelle belle lecture, quel encouragement et quelle exhortation. Dans le texte qui nous est proposé tout au départ, au premier verset, il nous est dit que nous savons en effet que si notre habitation terrestre est détruite, que si notre habitation terrestre qui n'est qu'une tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu. Et ce passage m'a un peu interpellé. Je me suis dit la différence qu'il peut y avoir entre la tente et l'édifice. Tout d'abord, nous avons une tente sur la terre, et cette tente, c'est quoi? Mais c'est notre corps. C'est le véhicule de vie dans lequel nous sommes, notre esprit et notre âme se trouvent dans notre tente, c'est-à-dire dans notre chair. La tente a pour vocation d'être un outil, en quelque sorte, une maison de toile, une habitation passagère. Nous habitons des tentes quand nous allons en vacances, à l'époque, quand on n'avait pas encore tout le confort qu'on pouvait se payer à l'hôtel, eh bien, on se contentait d'une tente. Hein, mais on savait que la tente, ce n'était que pour un séjour de quelques jours, voire 10, 15 jours, tout au plus. Les nomades ont toujours vécu sous des tentes. Mais en fait, ces nomades ne restaient jamais sur place, ils se déplaçaient constamment. Donc, en réalité, la tente n'est qu'une demeure passagère. Or, l'apôtre, ici, nous fait remarquer que si nous sommes dans une tente, mais nous sommes dans un temps de passage. Nous sommes de passage sur la terre. Et il faut bien comprendre cela parce que c'est important. Certaines personnes pensent pouvoir être, ou en tout cas ne pensent pas du tout qu'elles pourront en finir avec la vie. Que la vie, ça continue. Mais ce n'est pas vrai. Nous savons bien que la vie ne continue pas longtemps. Il y a des passages dans la Bible qui sont très clairs à ce sujet. Pour ne citer que le psaume 90. Dans ce merveilleux psaume 90, eh bien, il est dit que, voilà, je vais vous lire textuellement, c'est au verset, à partir du verset 10. Et pour les plus robustes, la vie est fixée à 70 ans. pour la vie est fixée à 70 ans et pour les plus robustes à 80 ans. Alors, il y a quelques personnes ici dans l'Assemblée qui ont 80 ans et plus. Au fond, la vie, pour nous, c'est fini. Si on s'en tient à ce texte-là, on pourrait dire qu'on est arrivé au bout. Les chandelles vont bientôt s'éteindre. Ça, c'est Dieu qui le sait. Mais n'empêche que la vie est courte. On fait beaucoup de tralala avec la vie, on fait beaucoup de projets pour la vie, mais en fin de compte, la vie ne nous appartient pas. Elle appartient à Dieu. Et nous pouvons quitter cette demeure terrestre tôt ou tard, selon sa volonté, selon ce qu'il aura choisi pour nous. Alors il faut quand même malgré tout relativiser l'importance de la vie à ce que la Bible nous dit. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est le prophète Amos qui dit ça, je pense. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et il y a une préparation, effectivement, qui doit s'effectuer dans notre vie. Une préparation, au fond, comme on se prépare pour faire un voyage. Quand on fait un voyage, ben, on se prépare. On prend ses bagages, on essaie de ne rien oublier, tous les détails, pour partir en toute sécurité, avec le confort que cela demande. Mais si on part en voyage en prenant tant de précautions, il y a aussi un autre voyage que nous allons faire bientôt. Et dans ce voyage, cela demande aussi de la préparation. Ça demande aussi que nous soyons vigilants quant à l'arrivée et aussi, surtout, à la destination que nous allons poursuivre. Sommes-nous certains d'être dans ce bon voyage? Alors, une deuxième phase que je voudrais démontrer ici par rapport à ce premier verset. Donc, nous avons dans le ciel un édifice, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main des hommes. Alors, voilà. La différence qu'il peut y avoir entre la tente provisoire et l'édifice qui est faite par Dieu ou qui est faite par l'homme en briques, cet édifice est fait pour demeurer toujours, en tout cas pour demeurer pendant le temps de notre séjour sur la terre. Donc, nous avons là une promesse que l'édifice qui nous attend dans le ciel, dans le royaume de Dieu, dans le ciel, ou là où le Seigneur désignera que nous soyons, sera un édifice éternel. Et nous sommes, nous, les enfants de l'éternité, parce que nous possédons déjà en nous, dans la foi qui nous est commune, que nous partageons, nous avons déjà cette assurance que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ. Rien. Rien ne pourra nous séparer. Et il y a des textes ainsi dans la Bible qui sont absolument formidables et qui nous rappellent que des événements vont arriver, des circonstances que Dieu permettra vont arriver. Vous avez lu certainement ces textes dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Thessaloniciens, dans l'Épître aux Corinthiens, dans le livre de l'Apocalypse. Il y a des textes qui sont merveilleux, mais qui sont aussi tellement encourageants et tellement enrichissant dans notre foi, parce que nous savons que finalement, nous possédons quelque chose, et nous allons vers quelque chose de fabuleux, quelque chose qui ne peut pas être expliqué réellement, humainement parlant. C'est tellement grandiose. Nous allons vers le ciel, nous chantons quelquefois. Il y a un texte dans l'Épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, chapitre 2, qui nous dit « Nous ne voulons pas, frères et sœurs, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui nous ont dévancés, au sujet de ceux qui sont morts. » Bien sûr que nous pleurons nos bien-aimés qui sont partis. C'est normal, il y a un attachement humain, il y a quelque chose qui fait partie de notre vie. On nous a arraché quelque chose qui fait partie de notre existence, et quand on perd un être cher, que ce soit une maman, un papa, un frère, que ce soit une épouse, que ce soit un époux, mais c'est quelque chose de déchirant, quelque chose qui nous affecte profondément. Et dans la vie, nous avons besoin d'être encouragés, nous avons besoin de recevoir de la consolation. Et s'il y a bien un livre où nous trouvons la consolation de tous nos maux et de toutes nos souffrances morales ou spirituelles, c'est bien la parole de Dieu qui nous la donne. C'est pour cela que les enfants de Dieu sont invités à lire et à méditer la Bible chaque jour, parce que c'est là qu'on va trouver son réconfort, l'énergie nécessaire pour faire face aux situations difficiles. Dans le texte que je viens de vous lire, il est dit que nous sommes accablés dans ce monde. Et c'est vrai, nous passons par des moments d'accablement, des moments où nous ne savons plus comment les choses vont s'en sortir pour nous. Nous ne voyons rien devant nous qui nous donne une lueur d'espoir. Il y a des gens qui se trouvent dans des situations catastrophiques, vous savez. Et bon, ils sont chrétiens, mais ils ont besoin pour cela d'une aide supplémentaire à leur propre raisonnement et à tout ce que la psychologie humaine peut apporter. Ils ont besoin de Jésus-Christ. Ils ont besoin de centrer leur vie et leurs sentiments, leurs émotions sur des promesses certaines, solides, inébranlables. Ces promesses certaines, solides, inébranlables ne se trouvent que dans la Bible. La Bible est le livre par excellence qui peut nous donner le chemin, le vrai chemin. Le chemin, Jésus a dit, je suis le chemin et la vérité et la vie. Alors je continue ce texte de l'Épître aux Thessaloniciens qui dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas dans la tristesse comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Mais nous avons une espérance. Et cette espérance, c'est quoi? Mais c'est que le Seigneur un jour viendra nous chercher et que nous serons avec lui dans cette demeure éternelle, dans cet édifice qu'il a préparé pour nous. Jésus a dit « Je m'en vais et je reviendrai ». Et là où je suis, qu'est-ce qu'il a dit? Vous, amen. Mais est-ce qu'on, quand on s'arrête un petit peu sur ce texte, sur cette parole, et qu'on se met à méditer un peu sur la richesse de cette parole, sur l'ampleur de cette promesse, sur ce qui nous attend vraiment, mais c'est étonnant, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Nous allons vers le ciel, nous allons vers le royaume de Dieu, nous allons là où le Seigneur a préparé une place pour ses enfants, et nous sommes ses enfants. Nous qui avons reçu Jésus en tant que sauveur, nous qui vivons simplement maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui ne faisons plus confiance au monde ni aux hommes, parce que notre confiance maintenant est basée sur du solide, sur de l'inébranlable, la parole de Dieu qui est un roc. Je continue ma lecture. En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et aussi avec ceux qui sont morts. Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, nous qui sommes sur la terre, ça peut se produire aujourd'hui, hein? Ça peut se produire maintenant. C'est ça qui est étonnant avec le Seigneur. Il nous réserve la surprise, hein? Voilà, nous qui sommes sur la terre, où suis-je? Voici ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour le retour du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc par ces paroles. Mais ce texte-là, il devrait en réalité décrisper nos tensions intérieures, il devrait nous donner une telle joie, une telle espérance, un tel support, une telle énergie, parce que nous trouvons en ce texte, en cette parole, l'espérance d'une vie meilleure, d'un avenir totalement glorieux qui attend chacun de ceux qui espèrent en lui. Il nous a dit pour cela également, pour pouvoir parvenir à atteindre ce but, le Seigneur a fait quelque chose pour nous d'extraordinaire. Il nous a remplis de son esprit. Il nous a baptisés de son esprit. Le jour où nous avons cru, la parole de Dieu le dit, il nous a remplis de son esprit, il nous a baptisés de son esprit, afin que nous ayons toujours en nous-mêmes ce témoignage de l'amour de Dieu. Témoignage qui nous est tellement utile. Quand on se sent seul, quand on se sent abandonné des autres. On n'a jamais été abandonné finalement. Dieu est toujours là, au cœur de notre vie, pour nous soutenir, pour nous guider, pour nous diriger, pour nous inspirer, pour nous fortifier à tous égards. Le Saint-Esprit est là. Quand on prie le Seigneur et qu'on invoque le Saint-Esprit, mais quand on le prie vraiment avec une invocation vraiment de tout cœur, eh bien on ressent automatiquement quelque chose qui vient sur nous. La paix, la joie, le pardon. Bien sûr, quand les péchés sont confessés, évidemment, parce que le Saint-Esprit ne peut pas venir sur un sol souillé, il ne vient que sur un sol propre. Quand nous avons nettoyé la demeure de notre maison, le Saint-Esprit est toujours là, lui, hein, mais nous le ressentons, il se fait connaître, c'est-à-dire qu'il nous en donne la capacité de ressentir sa présence. C'est merveilleux de ressentir la présence de l'Esprit. On ne se sent plus soi-même. On est boosté par quelque chose de plus fort que nous. Le baptême dans l'Esprit, c'est quelque chose de très sérieux, vous savez. Il faut savoir que le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins, mais qu'il nous a donné des arts, il nous a donné des acomptes. Et ces acomptes du ciel, c'est quoi? Mais c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Il faut être à l'écoute de sa voix. Et ce n'est pas toujours évident. On est tellement encombré par toutes sortes d'informations et par toutes sortes de tracasseries intérieures qu'on n'est pas toujours prête à écouter la voix du Seigneur. Mais mettons-nous de côté. Donnons-lui le temps et l'occasion de nous parler. Prenons le temps de prier. Au travers de sa parole, revêtons-nous de cette onction divine. Car il y a vraiment une onction qui est donnée à ceux qui lisent la parole et qui la méditent. Chers frères et sœurs, c'est une expérience que vous pouvez faire chacun. Dans le texte que nous avons lu, il y a aussi quelque chose qui nous permet de nous réjouir. C'est que nous échapperons au jugement dernier. Le jugement dernier est une certitude pour le monde entier. Et il viendra quand le Seigneur l'aura décidé. Mais nous, nous passerons par un certain jugement également, par le tribunal de Christ. Alors, quand nous paraîtrons devant le Seigneur, eh bien, nous allons paraître devant, non pas le jugement dernier, parce que ça, c'est pour ceux qui n'auront pas cru, mais devant le tribunal de Christ, où nous serons soit récompensés pour les bonnes œuvres que nous avons faites, ou soit blâmés de ce que nous n'aurons pas fait, alors que le Seigneur nous avait demandé de le faire. Mais en aucun cas, nous ne perdons notre salut. Le salut, il est là. Nous sommes sauvés, mais il y aura peut-être aussi des blâmes que le Seigneur nous donnera parce que nous n'avons pas toujours obéi comme il aurait voulu que nous obéissions. C'est vrai qu'on peut se poser la question, mais suis-je vraiment toujours obéissant au Seigneur? Comment dirige ma vie, comment est-ce que je dirige ma vie pour pouvoir être davantage plus obéissant, plus fidèle à sa parole? C'est une question, bien sûr, que nous pouvons nous poser et qui doit être solutionnée avant même que nous soyons morts. Nous avons essayé de prendre le temps de méditer sur nous-mêmes, de faire une sorte d'introspection dans notre vie, de voir un petit peu où nous en sommes dans notre foi, dans notre relation avec les autres, avec Dieu, avec nos frères. Si tout est au top, si tout est au bon niveau. Il est dit que si quelqu'un est en Christ, il est une... Les choses anciennes sont... Toutes choses sont devenues... Amen. Vous vous rendez compte? Si quelqu'un est en Christ, si vous êtes en Christ, eh bien je vous affirme, mes frères et sœurs, ce matin, que toutes choses pour vous sont devenues nouvelles, que la vie passée dans le péché, la vie passée hors de la présence de Dieu, c'est fini. Nous sommes morts à cette vie. Combien de fois dans ma prière je dis, Seigneur, je suis mort à moi-même, je suis mort à ma vie passée, c'est fini. Je n'ai plus rien à voir avec ça. Je suis un homme nouveau. Je suis une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Je suis devenu une créature de Dieu. Et nous pouvons le dire et l'affirmer. S'il y a bien quelque chose que Satan a peur, c'est que nous affirmions notre foi devant lui. c'est que nous disions les choses que nous avons à cœur de lui dire, que nous avons à lui dire pour affirmer notre foi et pour ne pas tomber sous son étreinte, sous ses tentations. La tentation, elle est valable pour tous les hommes et elle surgit inopinément dans la vie de chacun. Mais nous pouvons toujours trouver une aide et surtout un moyen de nous en sortir en invoquant le nom du Seigneur, en nous plaçant sous sa sainte protection. Nous avons des choses merveilleuses qui nous ont été données. Le Saint-Esprit, la prière, la parole de Dieu et aussi, à ne pas oublier, essentiel, le témoignage. Témoignons de notre foi. Donnons aux autres l'occasion de connaître Jésus-Christ. C'est un moment merveilleux quand on parle avec quelqu'un et puis que cette personne sent vraiment que les choses que nous disons la touchent et qu'on voit cette émotion qui la traverse parce que nous lui avons parlé de Dieu. Et puis les résultats aussi, quelquefois, nous avons eu l'occasion dans notre vie de voir des personnes converties, amenées au salut par le simple témoignage de la parole. Chers amis, nous ne pouvons pas échapper à cela, nous sommes ses témoins. Vous êtes mes témoins. L'apôtre Paul a dit quelque chose de merveilleux. Dans Philippiens chapitre 1, verset 21, il a dit « Christ est ma vie et la mort m'est un gain ». Alors, est-ce que c'est vrai pour nous ? Christ est ma vie. Quelles que soient les circonstances qui puissent m'arriver, que je vive ou que je meure, de toute façon, je suis à Christ. Nous sommes à Christ. Il est ma vie. Et la mort m'est un gain. La mort n'est qu'un passage... Allez, il ne faut pas en faire beaucoup de... Il ne faut pas en faire beaucoup de problèmes avec ça. Chacun devra passer par la mort, à moins que, au son de la trompette de Dieu, nous soyons enlevés. Ah oui, c'est possible. C'est même très probable dans notre génération. Car quand nous voyons un petit peu les circonstances de la société d'aujourd'hui, nous pouvons nous dire qu'à tout moment, le Seigneur peut revenir. Enlever son Église, enlever les siens, enlever ceux qui ont été réconciliés avec lui et qui se sentent vraiment réconciliés. Et que nous soyons pécheurs, nous le sommes toujours. Hein ? Ça, il ne faut pas se faire d'illusions. On sait toujours que nous avons des problèmes avec nous-mêmes. Mais le Seigneur a promis de nous pardonner les péchés que nous lui confessions. Alors, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Donc, soyons reconnaissants au Seigneur de ce qu'il nous a donné, cette capacité de pouvoir nous confier en lui, au travers de sa parole, de nourrir notre foi, et par la prière, de recevoir cette énergie d'en haut qui vient ainsi nous donner la force et l'énergie nécessaires dont nous avons besoin. Que le Seigneur vraiment vous bénisse, me bénisse et bénisse vraiment cette parole dans nos cœurs et cette espérance que nous avons et que nous possédons, comme l'apôtre Paul dit, comme une encre sûre de l'âme. Nous avons cette espérance, nous avons cette foi, nous avons cette confiance. Jésus revient, es-tu prêt ? C'est un chant. Avant on le chantait, maintenant je ne sais plus si on le chante encore. Dans certains recueils, il y avait ce merveilleux chant « Jésus revient, il vient bientôt ». N'est-ce pas ? Est-ce que vous croyez ? Bien sûr qu'on dit « Mais Jésus, ça fait des années qu'on dit qu'il revient, il ne revient jamais, il ne revient pas toujours ». Oui, mais c'est vrai. Mais attendons, et nous verrons la gloire du Seigneur. Soyons patients. Et si le Seigneur permet que nous soyons enlevés dans notre vivant, eh bien, qu'est-ce qu'il est dit ? Il est dit que notre corps sera transformé en un clin d'œil. En moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, et nous serons tous ensemble enlevés, métamorphosés, changés. Le corps humain sera transformé en un corps spirituel, tout en ayant les mêmes apparences et les mêmes caractéristiques que le corps que nous portons sur la terre actuellement, mais qui sera incorruptible. Incorruptible. Passeront plus par la corruption. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font incinérer. Ils ne passent même plus par la corruption. Le travail est plus rapide. Mais n'empêche que nous serons incorruptibles tout en étant vivants pour le Seigneur et dans la gloire. Moi, ce qui me réjouit le plus dans ma vie, c'est de savoir qu'un jour, je baignerai dans cette gloire céleste. éternellement. Il n'y a pas de fin. Alors on peut être prétentieux en disant ça. Un jour, j'étais au service militaire et j'avais affirmé ma foi à un aumônier militaire catholique, je crois que c'était un catholique lui, et j'avais dit que j'étais sauvé, que je venais d'être sauvé par le Seigneur, que j'avais l'assurance de mon salut. Il m'a dit, jeune homme, ne péchez pas par présomption. Ne péchez pas par présomption. Donc je ne pouvais pas avoir cette assurance. Parce que dans l'Église catholique, malheureusement, on ne donne pas une assurance absolue, sinon que dans la pratique des œuvres de la religion catholique. Mais je lui ai affirmé que j'étais chrétien et que je venais de faire une expérience personnelle avec le Seigneur, le rencontrer Jésus, et que vraiment c'était pour moi quelque chose qui était une certitude absolue. Assurance de mon salut, par la présence, comme le dit ce chant, du Seigneur Jésus, n'est-ce pas ? Que le Seigneur vraiment nous bénisse ce matin et nous garde dans sa paix. Voilà, je crois qu'il n'est pas dépassé l'œuvre, hein ? N'est-ce pas ? Merci de votre attention, chers bien-aimés, et que le Seigneur vraiment nous bénisse tous. Amen.